La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La tête. Tête. Oh. Oh. Tête, 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 tête. Carré.
Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. C'est un médecin légiste pas tout à fait comme les autres. Après avoir pendant longtemps pratiqué des autopsies sur des cadavres récents à la demande de la justice, notre invité du jour, Philippe Charlier, est passé maître dans l'art de faire parler les squelettes et autres restes de figures illustres de l'histoire. Il a eu sur sa table d'autopsie la dépouille d'Agnès Sorel, la favorite de Charles VII. Il prétend avoir identifié le crâne d'Henri IV. Plus récemment, il a ausculté des fragments de dents et de crâne d'Hitler. À quoi servent ces analyses? En quoi complète-t-elle notre connaissance de ces personnages historiques et de quelles techniques dispose Philippe Charlier pour faire parler ces morts célèbres? C'est ce que nous allons voir avec lui dans le dossier du jour. Nous sommes en direct et pour lui adresser une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook de La Tête au Carré. Bonjour Axel Villard.
Bonjour Daniel.
Aujourd'hui, à la une de la science, on s'intéresse au poids économique des demandeurs d'asile.
Oui, et on pourrait même dire à la légèreté économique, car selon le travail de trois chercheurs français, ils ne coûtent rien, voire rapportent un peu d'argent à leur pays d'accueil. On en discute avec l'économiste Hippolyte Dalbis.
Vos questions, vos réactions sur Twitter avec le mot-clé « l'attaque ». Voilà pour le programme de cette tête au carré, réalisé par Fanny Bohuon et préparé par Hannibal Wachi.
La tête au carré. Magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Bonjour Philippe Charlier.
Bonjour.
Médecin légiste et anthropologue, maître de conférences à l'université Paris-Saclay. Alors, appliquer les techniques de la médecine légale pour réouvrir en quelque sorte les cold cases de l'histoire, c'est un peu devenu votre spécialité. Alors, je citais Agnès Sorel, Henri IV, Hitler, il y en a eu d'autres, hein, le cœur de Richard Cœur de Lion. Comment en êtes-vous venu à travailler sur les restes de ces figures illustres de l'histoire?
Bien, ce sont toujours des patients, ce sont des individus qui ont vécu il y a plusieurs milliers d'années ou centaines d'années et qui présentent de toute façon un intérêt à la fois scientifique et un intérêt historique. Donc on utilise les mêmes méthodes que celles qu'on pourrait retrouver sur une scène de crime ou sur un lieu de découverte de cadavres. C'est juste qu'au lieu de travailler juste entre nous, scientifiques et spécialistes de la médecine légale, eh bien on incorpore à l'équipe des spécialistes différents comme des archéologues, comme des historiens ou des historiens de l'art, notamment quand on bosse sur des masques mortuaires comme ceux de Robespierre ou de Mirabeau.
Et alors, l'une de vos dernières enquêtes portait sur Adolf Hitler. C'est un fragment de crâne dont on n'est pas vraiment sûr qu'il soit celui d'Hitler et des dents, là où par contre il y a plus de certitude.
Oui, en fait, il y avait une incertitude globale, complète sur le fragment de crâne et sur les dents. Et maintenant, on est certain que les dents, les fragments de mâchoire, que les prothèses dentaires sont bien ceux de Hitler. Mais en plus, parce que c'est ça l'intérêt, que c'est Hitler en 1945, ouais. Parce que ça, notre but était d'avoir une vision globale sur ce cold case, comme pour reprendre votre expression, mais pouvoir dater précisément le moment de la mort, et donc tuer définitivement, si on peut dire, toutes les théories survivantistes complètement abracadabrantesques.
Alors, nous verrons dans cette émission comment vous avez mené cette étude et quelles en sont les conclusions plus précises. Le médecin légiste anthropologue Philippe Charlier nous emmène dans ses enquêtes historiques dans La Tête au Carré cet après-midi. Et pour lui adresser une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. L'économie de la migration est aujourd'hui à la une de la science.
Prendre notre part de la misère du monde, mais pas toute la misère du monde. Sinon, nous courons le risque de provoquer dans nos sociétés de véritables séismes économiques.
Alain Juppé, parlant de séisme économique en 2015, une menace remise en cause par une étude qui paraît aujourd'hui dans la revue Science Advances, signée par une équipe de trois chercheurs, parisiens et clermontois. Cette étude estime le poids que représentent les demandeurs d'asile pour leur pays d'accueil. Contrairement à certaines idées reçues, et comme l'avaient déjà montré d'autres études, l'accueil de ces personnes n'entraîne pas de dégradation économique et fiscale. Axel, pour en parler, nous accueillons un des auteurs de ce travail.
Oui, nous sommes en studio avec l'économiste Hippolyte Dalbis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche pour le CNRS et professeur à la Paris School of Economy. Le communiqué de presse que tout le monde a reçu pour accompagner vos travaux pour le CNRS était titré « Non, les demandeurs d'asile ne sont pas un fardeau pour les économies européennes ». Je voulais vous demander à qui s'adresse ce nom puisque c'est une réponse à une question, non ?
Alors en effet, j'imagine qu'il s'adresse à ceux qui pensent le contraire,
oui.
Même si c'est pas forcément eux qui vont accueillir avec le plus de joie nos résultats. Mais plus sérieusement, c'est quand même mettre l'accent sur ce qui me paraît être le plus important dans notre étude. Si on trouve parfois mais des effets positifs de la migration, il faut pas oublier que ce sont des personnes, hein, des personnes qui, surtout dans le cas des demandeurs d'asile, qui ont vécu souvent des situations extrêmement difficiles. Et donc, il faudrait pas faire jouer à cette migration le rôle qui n'est pas le sien. On va pas accueillir des demandeurs d'asile pour relancer nos économies. Donc la vraie question, c'est de savoir si, lorsqu'on fait ces choix, ou notamment ces choix politiques sur les demandeurs d'asile, ou lorsque l'on en discute, est-ce que c'est un coût ou pas. Nous, ce que dit cette étude, c'est que finalement, ça n'en est pas un.
Alors comment est-ce que vous l'avez construit, ce travail ? Quelles sont les choses à prendre en compte quand on cherche à savoir combien coûtent réellement les flux migratoires ?
Alors, ce qu'on a construit, en fait, c'est... En gros, on va utiliser des statistiques, hein, sur 31 dernières années pour une quinzaine de pays européens. Et donc, on va construire un modèle statistique qui permet de reproduire à la fois les flux migratoires, mais aussi l'évolution économique.
Et vous séparez deux types de flux, vous séparez les demandeurs d'asile des autres migrants. Qu'est-ce qui les différencie pour vous et pourquoi vous traitez ces deux types de personnes différemment ?
Alors, un demandeur d'asile, c'est une personne qui arrive et qui demande la protection du pays dans lequel il arrive. Et donc, il a pour cela un visa pour rester de façon temporaire, hein, le temps de l'instruction de sa demande. D'accord ? Donc, il est considéré comme un migrant temporaire, hein, d'un point de vue des statistiques. Et en effet, on va le distinguer de ce que l'on appelle les migrants permanents, hein, qui ont finalement un droit de rester plus longtemps et qui ont parfois une intention de rester plus longtemps.
Et en termes économiques, et quelles sont les différences ?
Alors, en termes de flux, vous voyez, par exemple, en 2015, on a reçu à peu près un peu plus d'un million, hein, dans les 15 pays d'Europe que l'on regarde de demandes d'asile, hein, ce qui est beaucoup, mais ce qui est moins que finalement cette migration nette qui représente à peu près 2 millions, le double, vous voyez, qui peut être à la fois des mouvements à l'intérieur de l'Europe, mais aussi des mouvements de migration légale, hein, de l'Afrique vers l'Europe ou d'autres pays. Alors les conséquences économiques de ces deux migrations sont très différentes. Voilà, la migration permanente, ce que l'on trouve, c'est qu'elle a un effet très positif sur l'économie, c'est-à-dire qu'elle augmente finalement les revenus moyens dans l'économie, elle fait diminuer le chômage, puis elle améliore les finances publiques. D'accord ? Et après, lorsqu'on se concentre sur la question de ces migrants temporaires particuliers que sont les demandeurs d'asile, vous voyez, on ne s'attendait pas à avoir un effet positif, hein, pour plein de raisons qui sont évidentes, ne serait-ce que pendant le temps d'instruction de votre demande d'asile, vous n'avez pas le droit de travailler, ouais. Voilà, vous allez recevoir une allocation, etc. Mais ce qui était assez étonnant, c'est pour ça aussi que cette étude a été publiée, c'est qu'au total, ça n'est pas un coût pour les finances publiques.
Alors, si on rentre un peu dans le détail, dans la vie de ces gens, quels sont les coûts pour l'État ? Quels sont les bénéfices ? Est-ce que vous allez jusque-là ou c'est seulement des hypothèses ou des calculs globaux sur ces 15 pays ?
Alors, ce ne sont pas du tout des hypothèses. Ce sont véritablement les chiffres, hein, tels qu'ils sont compilés par les instituts nationaux de statistiques. Hein. Alors, évidemment, donc il y a un coût d'argent public parce qu'il faut les accueillir, il faut d'une certaine manière parfois leur fournir un logement. Ça dépend un petit peu des pays, mais on peut avoir un logement, on peut avoir une allocation aussi, hein, le temps de l'instruction de la demande. Donc, bien sûr que c'est un coût pour les finances publiques. Mais ce que nous, on va montrer, c'est qu'il faut pas rester juste sur cette partie de l'histoire, il faut prendre les choses plus globalement. Et finalement, cet argent va être réinjecté dans l'économie. Hein. Simplement, on va recruter des personnes qui vont s'occuper des demandeurs d'asile, on va construire des bâtiments, etc. Et cet argent qui est réinjecté dans l'économie, il va relancer un petit peu l'économie. Et donc, les gens vont payer plus d'impôts parce que l'économie va être plus riche. Et donc, à la fin, lorsqu'on regarde les deux, vous voyez, vous avez d'un côté un peu de coût, mais vous avez pour les recettes de l'État aussi un petit peu de bénéfices. Et au final, et c'est ça qui nous a réellement étonnés, c'est au final, il n'y a pas d'impact. Donc non, quoi, quand on dit c'est une catastrophe, catastrophe ou c'est un séisme, vous voyez, du point de vue des finances publiques, ça c'est pas vrai, c'est pas ce qu'on observe depuis 30 ans.
Quand on travaille sur un tel sujet, comment on fait pour ne pas se laisser emporter par ses propres convictions et comment on fait pour que ceux qui ont des convictions sur ces questions-là vous croient et voilà, ne se disent pas c'est biaisé, ils ont envie de démontrer ce qu'ils disent.
Oui, bien sûr. C'est une question qui pourrait être générale pour beaucoup de scientifiques, hein, ou
c'est
en tout
vrai.
Cas pour beaucoup de scientifiques qui travaillent sur des sujets intéressants. Je veux dire, très souvent, je veux dire, en effet, il peut y avoir des convictions. Eh bien, en fait, finalement, la méthode, elle est comme dans beaucoup de sciences, c'est-à-dire que ce qu'on fait est totalement ouvert et totalement réplicable. D'accord ? Tout le monde peut reprendre les données, tout le monde peut voir quelles sont les méthodes que l'on utilise. Ce sont des méthodes qui sont scientifiquement comme, réputées comme étant les meilleures en ce moment, et ils peuvent reproduire, répliquer nos résultats. D'accord ? Donc le processus en fait de référé et de publication internationale, justement propose ce dialogue entre les personnes. Et donc si je disais quelque chose qui serait faux, vous voyez, immédiatement il y aurait des dizaines et des dizaines d'autres équipes de recherche qui viendraient me montrer que c'est faux.
Une dernière question, Axel.
Oui, pour terminer, aujourd'hui, pour vous, toute déclaration qui laisserait entendre que l'accueil de migrants ou de demandeurs d'asile coûte de l'argent à la société, à l'État, serait une fausse information, même si on parle pays par pays, parce que là vous parlez pour 15 pays, mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire ça clairement au micro?
Non, mais on rentre pas au niveau de chaque pays. Hein. On regarde une réponse globale sur 30 années, etc. Moi, ce que je dirais au micro, c'est que ce que nous disent les statistiques, ce que nous disent des modèles qui sont justement pas biaisés idéologiquement, c'est que globalement, ça n'a pas eu de coût. D'accord. Donc, il y a énormément de dimensions qui sont importantes dans l'accueil des migrants, dans l'accueil des demandeurs d'asile. Il y a des enjeux qui sont politiques, il y a des enjeux qui sont diplomatiques très forts en Europe, etc. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est ne nous chargeons pas en plus de cette fausse croyance qui nous annoncerait que ça va être un séisme économique.
Merci à vous, Hippolyte Dalbis et Axel. À demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les secrets de l'univers sont à portée de main. En effet, la caméra de nos smartphones est capable de détecter des particules cosmiques venues du fin fond de l'univers. Une équipe polonaise a mis au point une application gratuite, Credo Detector, c'est son nom, sur Android. Les chercheurs comptent sur la participation de milliers de personnes à travers le monde pour collecter ces infimes traces du passage de rayons cosmiques, une sorte d'observatoire mondial version science participative, en constituant ainsi une base de données conséquente sur les particules cosmiques. Les chercheurs espèrent en apprendre plus sur l'énergie noire et d'autres phénomènes mystérieux de l'univers. Pendant que l'exposition T-Rex se poursuit au Muséum de Paris, une nouvelle étude suggère que la plupart des dinosaures, aussi effrayants fussent-ils, étaient incapables de tirer la langue. Les chercheurs ont comparé l'anatomie d'une variété de dinosaures à leurs descendants directs, les oiseaux, et à leurs plus proches cousins, les reptiles. Conclusion, la mâchoire de ces dinosaures ressemblait davantage à celle des alligators. Or, ces animaux sont incapables d'étendre la langue. L'image du tyrannosaure qui fait onduler sa langue comme un serpent avant de dévorer sa proie n'est donc que fiction, n'en déplaise aux réalisateurs de Jurassic Park. Et pour terminer en musique, voici le chant du bruant des marais. Des chercheurs ont pu estimer l'âge de ce chant 1500 ans par une analyse statistique des différents sifflements émis par plus de 600 espèces d'oiseaux de l'espèce des passereaux. On le sait donc maintenant, les humains ne sont pas les seuls à se transmettre une culture orale de génération en génération. Ces bruants des marais le font aussi. Dans un instant, on s'intéresse aux enquêtes historiques menées par le médecin légiste et anthropologue Philippe Charlier. Pour lui adresser une question, rendez-vous sur la page de La Tête au Carré sur franceinter.fr. Maman Téchoual Mouen, c'est du créole et ça voudrait dire quand je monte mon cheval. Mélissa Lavaux sur France Inter.
La tête au carré, Daniel Fievé.
Philippe Charlier, notre invité cet après-midi, médecin légiste et anthropologue, maître de conférences à l'Université Paris-Saclay, rattaché au musée du Quai Branly. Ça, c'est pour la version courte de votre carte de visite, Philippe Charlier. Vos activités sont multiples, hein, on s'y perd un peu parfois. Prenons-le dans l'ordre. Vous êtes médecin légiste. Alors déjà, médecin légiste, il y a une petite ambiguïté, souvent un malentendu. Ça ne s'occupe pas que de cadavres, un médecin légiste. Hein. Ça fait de la médecine légale et il y a aussi la médecine légale clinique. En quoi ça consiste ?
Alors, la médecine légale clinique, c'est examiner, prendre soin de patients qui généralement ont été victimes de coups, de blessures, de traumatismes, de viols parfois, de tentatives d'assassinat. Alors moi j'exerce cette médecine légale clinique en étant à la prison de Nanterre, la prison des Hauts-de-Seine, 1200 détenus à peu près, pour lesquels je suis une sorte de médecin généraliste et légiste, parce que malheureusement il y a beaucoup de violence. Et puis également je m'occupe de migrants, on en a parlé un tout petit peu avant, des migrants qui sont en demande de reconnaissance du statut de réfugié politique. Et donc j'ai créé une consultation à l'hôpital Max Forestier à Nanterre où, avec un double regard de médecin légiste et d'anthropologue, je fais un constat de toutes les lésions traumatiques qu'ils ont. Je vois toutes les cicatrices sur leur corps et je fais la différence entre des lésions causées par de la médecine traditionnelle ou des scarifications magico-religieuses, rituelles, et puis malheureusement des lésions traumatiques induites par des coups et blessures, par des sanctions ou ce genre de choses.
Alors ça, c'est votre travail en tant que médecin légiste aujourd'hui. Par le passé, vous avez aussi fait de la médecine légale thanatologique. Donc là, en revanche, il s'agit de pratiquer des autopsies sur des cadavres. Et c'est la justice qui vous demandait d'autopsier certains cadavres à raison de un ou deux par jour.
Oui, c'est ça. Ça, c'est la médecine légale qu'on connaît plus dans le grand public. À l'époque, j'étais au CHU de Garches et je travaillais pour la cour d'appel de Versailles. Et on avait beaucoup d'autopsies à pratiquer. C'était généralement des corps qui étaient tantôt frais, tantôt en état de décomposition avancée, putréfiés, parfois squelettisés ou carbonisés. Et pour lesquels il fallait d'abord déterminer l'identité et ensuite la cause de la mort. Et là, on voit déjà les techniques, les moyens qu'on utilise maintenant beaucoup en archéologie et pour l'histoire.
Ouais, parce que vous êtes aussi un passionné d'histoire et ça vous a conduit à vous intéresser à des figures de l'histoire. C'est cet aspect de votre travail que l'on va surtout évoquer dans cette émission. Par exemple, vous êtes aussi paléopathologiste. Qu'est-ce que c'est qu'un paléopathologiste ?
C'est un terme bizarre. Hein,
oui.
Paléopathologiste, en fait, ça veut dire, c'est du grec ancien, ça veut dire les vieilles maladies, tout simplement, ou les maladies du passé. On est des médecins légistes de l'histoire, tout simplement.
Ouais.
C'est ce qu'on appelle aussi, un autre terme un peu alambiqué, l'ostéo-archéologie. On va directement sur les chantiers de fouilles archéologiques. On est archéologue nous-mêmes, on fouille nos squelettes, nos momies, où on récupère ces fragments corporels sur le lieu même de leur découverte, et ensuite on en fait une étude médicale, voire même biomédicale.
Ouais.
On utilise tous les outils que vous, patients vivants vous pourriez utiliser quand vous allez à l'hôpital, quand on vous fait une prise de sang, quand vous passez un scanner ou autre chose, eh bien dites-vous bien qu'entre vous et un patient d'après, il peut y avoir un paléopathologiste qui convoie une momie du musée du Louvre, un fétiche du musée du Quai Branly ou
dans
autre chose.
Dans les mêmes scanners qui nous accueillent.
Alors, on désinfecte un tout petit peu plus, même si, à mon avis, certaines momies sont bien plus propres que certains patients.
Et paf.
Et oui, ben c'est, on est, voilà, tout le monde n'a pas la même notion de la propreté, tout simplement, mais c'est pas forcément de notre faute. Non, blague à part, les mêmes outils sont vraiment directement applicables parce qu'il faut considérer que ce soit une statue, que ce soit un squelette, que ce soit une momie, ce sont des patients et ils ont tout un capital de données biologiques, de données organiques, de données anatomiques à nous transmettre.
Alors, à quel point un squelette, prenons le squelette, un squelette de plusieurs siècles, qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce que ça peut révéler de la santé de cette personne qui a vécu il y a plusieurs siècles?
Alors d'abord, on travaille de façon vraiment bien hiérarchique. Première question, combien il y en a? Est-ce qu'il y a un squelette, deux squelettes, trois squelettes? Le nombre minimum d'individus. Uh-huh. Ensuite, est-ce que c'est humain ou animal? C'est pas forcément évident. Ah oui. On l'a vu récemment pour l'affaire Seznec, où il y a eu quelques jours de flottement, on va dire. Mais surtout, quand ce sont des ossements qui sont abîmés, carbonisés ou fragmentés, on peut être obligé d'utiliser le microscope. Ensuite, c'est un homme, c'est une femme ou c'est un enfant, on peut pas déterminer. Et puis ensuite, l'âge au décès, 14 ans, aux alentours de 25-35 ans, plus de 65 ans, c'est pas forcément le plus précis qui est le plus vrai. On préfère avoir une échelle. Et puis ensuite, on est des médecins. Quel était son état de santé? Est-ce qu'il y avait une maladie infectieuse? Est-ce qu'il y avait un traumatisme? Est-ce qu'on peut mettre en évidence une fracture? Est-ce qu'elle a soigné toute seule ou est-ce qu'il y a eu l'intervention d'un tiers, comme un chirurgien, par exemple, orthopédiste notamment? Voilà, on a une lecture qui est systématique de ces ossements et on essaie de reconstituer le puzzle.
Ouais. Alors, on va prendre un exemple très concret, celui d'Agnès Sorel, la favorite de Charles VII. C'est le premier cas historique un peu connu sur lequel vous avez planché. C'était en 2006. Alors, ce que l'on savait d'Agnès Sorel, il y avait des écrits, il y a aussi des romanciers, des romancières qui ont écrit sur la mort d'Agnès Sorel. Je vous propose la version de Jeanne Bourrin, romancière historique, qui avait écrit Agnès Sorel, la dame de beauté, et qui racontait ainsi sa mort.
La nuit arrive, Agnès somnole. Brusquement, elle appelle. Ses prunelles brillent anormalement, son teint est beaucoup trop coloré, ses mains brûlent. « Dame, qu'avez-vous ? Un grand frisson vient de me saisir, me tirant du sommeil. Je suis transi, pourtant j'étouffe. » Le médecin court, il palpe le ventre à la peau si douce, y réveillant une douleur aiguë, fulgurante. Le visage altéré, les larges cernes qui entourent les yeux, la bouche sèche et ces souffrances qui maintenant reviennent, renseignent le praticien. D'un coffret qu'il vient d'apporter avec lui, il tire tout en les nommant au fur et à mesure des plantes séchées. Chacun s'affaire. Agnès geint doucement. Commencent alors les heures noires, les jours affreux, de douleur, de sanie, d'humiliation. Le corps tant soigné, tant chanté, tant désiré n'est plus que souffrance et déjection. Officiellement, on parle d'un flux de ventre.
Récit par Jeanne Bourrin de la mort d'Agnès Sorel en 1970. Elle a écrit ce texte. La lecture était extraite d'un Sur les docks de France Culture diffusé en 2013. Alors, vous, Philippe Charlier, vous avez fait appel à plus de données scientifiques. D'abord, à quel élément du cadavre d'Agnès Sorel vous avez eu accès?
Pas mal de restes étaient conservés pour Agnès Sorel. Donc, Agnès Sorel, elle est morte en 1250 à Loche. Pas à Loche, justement, à Jumièges, en Normandie. Son corps a été embaumé, rapatrié à Loche. Mais en fait, c'est un corps qui était dépourvu d'une grande partie des viscères. Les viscères sont restés là-bas, en Normandie, et le corps, avec quelques fragments de l'intérieur, était enterré, ont été déterrés ensuite au XVIIIe siècle, mis dans un saloir à cochons. Et en fait, c'est cette sépulture secondaire que nous avons été amenés à examiner. C'était des fragments momifiés.
Ouais.
Très squelettisé, mais momifié quand même, donc beaucoup de résidus organiques. Eh bien, on a pu utiliser un scanner pour reconstituer le visage de l'individu, mais pour retrouver la cause de la mort, l'équipe interdisciplinaire, et notamment avec l'aide de Françoise Bouchet, paléoparasitologue à Reims, nous a permis d'identifier beaucoup de parasites qui étaient à l'intérieur de son ventre. Ouais. Et donc ces flux de ventre dont on vient d'entendre parler avec cet extrait de Jeanne Bourin, c'était en fait ces parasites qui étaient à l'intérieur de son, de ses intestins, des vers, Ascaris, ouais. mais également le traitement, et ça c'est Joël Poupon qui est toxicologue à l'hôpital Lariboisière qui a identifié avec Marine Cotte une très grande quantité de mercure, 10 000 à 100 000 fois la dose thérapeutique de mercure. La pauvre Agnès Sorel, quand elle a été atteinte par, par ces parasites, elle a été traitée également, sauf qu'on lui a donné 10 000 à 100 000 fois la dose qu'on aurait dû lui donner.
Et là, on commence à rentrer dans une enquête plus policière. Se pose la question, est-ce que c'est un accident, un mauvais dosage du médecin, ou est-ce que Agnès Sorel a été empoisonnée au mercure?
Eh bien, c'est là que s'arrête le boulot du médecin légiste. Moi, je ne peux pas vous répondre. C'est là qu'on transmet le dossier aux historiens, comme un médecin légiste transmettra ensuite le dossier au procureur de la République ou aux policiers. C'est à eux de faire leur enquête. Et je peux vous dire qu'ils cherchent toujours à essayer de savoir si... Il y a une troisième possibilité que vous n'avez pas évoquée. Donc, il y a l'assassinat ou le meurtre, si vous préférez, l'hypothèse criminelle. Il y a l'hypothèse aussi accidentelle. On peut se tromper dans les dosages. C'est malheureux, mais ça arrive. Et puis la troisième, c'est l'hypothèse d'un suicide. Parce que dans les ossements ou les restes d'Agnès Sorel, on a retrouvé les restes d'un tout petit enfant qui avait 7 mois et dont elle a accouché, on le sait par son biographe, quelques jours avant de mourir. Et donc elle a très bien pu, dans ce contexte-là, voulu se supprimer. C'est une hypothèse qu'on soulève, mais c'est une hypothèse.
Si elle a été victime d'empoisonnement, on a une idée de qui pourrait être le coupable, l'empoisonneur?
Alors, pour mes collègues historiens, plusieurs noms ont circulé. Ça ne veut pas dire que ce sont les auteurs du méfait. Alors, certains ont parlé de Louis XI, d'autres ont parlé de Jacques Coeur. D'ailleurs, c'était un des chefs d'accusation de Jacques Coeur. Jean-Christophe Ruffin en a parlé dans Le Grand Coeur. Et puis également les Anglais ou encore la cour, peut-être même Madame de Méniolet, qui était une très proche familialement d'Agnès Sorel et qui a d'ailleurs remplacé Agnès Sorel dans le lit du roi quelques semaines plus tard.
Ce sont de véritables enquêtes policières historiques que vous menez, Philippe Charlier. Agnès Sorel est le premier cas sur lequel vous vous êtes penché en 2006. Depuis, il y en a eu bien d'autres et nous allons revenir sur certains d'entre eux dans la suite de cette Tête au carré.
Look at the cash coming in. Come get your man, see little nigga bugging me. Just need a bag, quit all that jaw jackery. Don't even pass me that, I don't want none of it. These niggas mad about it, had enough of it. Whoa, watch what you saying, how that popping and shaking. Got me hot as a laser, my posse dipping, I raiding. We act a fool for the paper, had a dream and I made it. El Camino on Dayton's, bitches guess over bait. Put the bread on me, bitch, bitch you bet on my bacon. Big and flat in the bacon, I might just roll out today. I might just roll out to Vegas, head back to my old ways. Cop a roof full of Asia hoes and we blow all day. Look at me, baby. Look at me, baby. Don't I look like a million? I'm about to clean out the safe. Don't I look like somebody that just be bodying everything? All that talking is great, but I don't be talking. I air it out. All the problems have gotten easy to bury. I'd rather drown him in Hendrix. I'd rather kiss on my Mary. I've been broke away longer than I've been rich. So until it levels out, I'ma take your mama to the Marriott and wear it out. Took me so long to get it, gonna spread it out. Let them know all about me when I'm dead and gone. One in the hand, one in the bag, bubbling. One in the hand, one in the bag, bubbling. Look at the cash, look at the cash, bubbling. Look at the cash, bubbling. One in the hand, one in the hand. One in the hand, one in the bag, bubbling. Look at the cash, look at the cash, bubbling. Look at the cash, I'm gonna need all the fries you can give me, all the hot sauce, all the pie you can give me. Better be all or nothing, don't have me in the middle. You better be all you can, get high in a minute. Super fly for the Dumbos, plenty slides like a shuffle. Hit the cadence on my young bitch, Isaac Hayes, Billy Ocean. About the old hoe with the cane stick, let my slippers at the function. It's hard to run the Gucci slides, she got that you say you didn't have a husband. I'm a stud, no cuckoo, Jackie Chan, no trouble. Can't clean it with a bee, blood dripping from the cutthroats. No, Lord, not
not me, I can never be the one you wanna stuff for. Money, money, the machine, guns, for the fail, got my stove. R.I.P. the times that I was broke. After life in 9/11, folks. Mad back, liquor clean. Dead places in and I'm a loco. Cooking up canard, waiting for the antidote. Running out of time. Patience then it's in a penny hoe.
I don't do that.
In my prison, you do what I tell you. Get over here.
He's gonna get this.
Stay the fuck out of
here. One in the hand, one in the bag, bubbling. One in the hand, one in the bag, bubbling. Look at the cash, look at the cash, bubbling.
Okay, bubbling.
Look at the cash, bubbling.
Go.
One in the hand,
look.
One in the hand. One in the hand, one in the bag, bubbling.
Look at
the cash, look at the cash, bubbling.
Okay, bubbling.
Look at the cash, bubbling.
C'était Bubbling, Anderson Paak.
La tête au carré sur France Inter.
Explorer l'histoire en utilisant les techniques et les savoir-faire actuels de la médecine légale, telle est l'une des activités de notre invité Philippe Charlier, médecin légiste, anthropologue et passionné d'histoire. Philippe Charlier, il y a déjà énormément de questions qui arrivent pour vous par le biais d'Internet. Sur Facebook, on vous demande, c'est Damien qui vous pose cette question, quel est le squelette le plus ancien sur lequel vous avez pu travailler et y a-t-il des squelettes sur lesquels vous ne pouvez plus travailler ?
Alors Damien, il s'agit de Lucie, l'Australopithèque afarensis, qui a été découverte il y a bientôt plus d'une, au moins une trentaine, voire une quarantaine d'années maintenant.
La fameuse Lucie de plus de 3 millions d'années. Hein.
C'est ça, et en fait, on a examiné avec Yves Coppens, non pas le squelette exactement, même si j'ai eu la chance de le voir à Addis Abeba, mais le double en résine en très bonne définition, qui est conservé au Collège de France. Ce qui nous intéressait, c'était qu'il y avait des chercheurs qui avaient publié une étude sur le squelette il y a quelques années, disant que Lucie était tombée d'un arbre. Ça nous avait un tout petit peu étonnés, comme scénario ou comme hypothèse. Du coup, on a réexaminé le squelette et on s'est rendu compte qu'il y avait des traces de morsures sur le squelette au niveau du bassin qui sont compatibles avec des morsures par un saurien, sachant que des squelettes de crocodiles ont été retrouvés dans la même couche stratigraphique que Lucie. Mais en plus, tous les mouvements de cassures, de fractures un peu spiroïdes, assez typiques qu'on retrouve au niveau des quatre membres de Lucie, peuvent aussi s'expliquer non pas simplement par une chute d'un arbre, mais aussi par le fait d'être pris dans un glissement de terrain. Or, la couche stratigraphique dans laquelle elle est correspond exactement à un glissement de terrain. Donc, on a publié cette étude-là, mais la conclusion à en tirer, c'est qu'il ne faut pas sortir un objet archéologique, a fortiori un squelette, de son contexte de découverte. Sinon, on tombe vraiment sur des hypothèses qui sont assez ahurissantes parfois, et il faut toujours repartir de la base, le terrain, l'environnement, là d'où ça vient.
Ouais. Alors, la deuxième partie de la question de Damien, c'était y a-t-il des squelettes sur lesquels vous ne pouvez plus travailler, sous-entendu qu'ils sont trop vieux, qu'on n'arrive plus à faire parler.
Alors vieux, tant qu'ils sont conservés, tant qu'on a de la morphologie, tant qu'on a quelque chose en trois dimensions, non, on peut toujours travailler dessus. En revanche, à partir du moment où ça a été incinéré, c'est-à-dire brûlé, puis transformé en poussière, là on perd beaucoup d'informations, mais il nous reste encore des choses. On peut toujours faire un tout petit peu de toxicologie, des analyses élémentaires, on peut encore faire de la génétique, même si ça a été brûlé à haute température, il reste toujours un tout petit peu d'informations. Donc voilà, même dans les incinération de nos parents, grands-parents ou de nos proches, pour les paléopathologistes du futur, il y aura toujours des informations à glaner.
Pour compléter la question de Marine sur Twitter, quels sont les effets du temps qui empêchent l'étude des squelettes ? L'incinération, comme vous venez de le citer.
Alors, l'incinération, oui, nous sommes poussière et nous redeviendrons poussière, nous dit l'adage, mais également, on n'aime pas trop les ultraviolets qui abîment l'ADN, on n'aime pas trop l'humidité non plus, qui va fragmenter, qui va déformer. Voilà, il faut vraiment qu'un squelette soit... l'idéal, c'est dans un contenant qui ne bouge pas à température constante et... C'est difficile de trouver des conditions parfaites de préservation. La découverte, par exemple, d'un squelette en Bretagne est quelque chose d'assez exceptionnel.
Voilà. Ah oui. Parce qu'il fait trop humide, les conditions climatiques
Non, c'est pas l'humidité. C'est marrant que vous pensiez à l'humidité pour la Bretagne.
Je vais me faire taper sur les doigts par les Bretons.
Il fait toujours très très beau en Bretagne. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est que le sol est très acide. L'acidité dissout le squelette. Du coup, soit c'est dans une poche d'humus et on a de la chance, soit ce sont des crémations, tout simplement, âge du bronze ou période plus tardive, pour lesquelles l'os a augmenté en dureté et du coup, il résiste mieux aux conditions physiques et climatiques.
Alors, il vous arrive arrive aussi, Philippe Charlier, pour mener à bien vos enquêtes, d'innover, d'imaginer de nouvelles techniques. Ça a été le cas notamment lorsque vous avez fait appel à des parfumeurs. L'énigme que l'on vous posait à ce moment-là, il y avait un petit morceau de côte, un peu, voilà, d'apparence un peu noirâtre, mais on ne savait pas trop si c'était carbonisé ou non. Et il était indiqué sur une petite étiquette que c'était un morceau de côte ayant appartenu à Jeanne d'Arc.
Oui, c'est ce qu'on appelle le bocal de Chinon, c'est conservé en Touraine, et c'était des restes présumés de Jeanne d'Arc, retrouvés a priori sous son bûcher à Rouen, et redécouverts quasiment miraculeusement en 1865. Mmh. Et en fait, il y avait une odeur assez forte qui avait été décrite lors de la dernière ouverture dans les années 1970, et je me souviens, moi, quand je faisais des fouilles archéologiques en Grèce, à Itanos, pour l'école française d'Athènes, et également en Italie, à Monte Renzo Vecchia, à côté de Bologne, parfois, pour l'ouverture de certains tombeaux, il y avait une odeur extrêmement forte qui sortait, un peu doucereuse, une odeur, un mélange de moisissure et de parfum très très fugace, qui n'était pas le jeu d'une hallucination olfactive, je peux vous rassurer. Et du coup, pour cette occasion-là, j'ai organisé un petit peu les choses et j'ai demandé à deux nez de parfumeurs, deux nez de parfum, si on peut dire, Sylvaine Delacourte de chez Guerlain et Jean-Michel Durier de Jean Patou Rochas de venir respirer. Et donc, ils ont collé leur nez contre l'ouverture de ce reliquaire. Et au moment où j'ai ouvert le reliquaire, ils ont inspiré à pleine bouffée. Alors, ça peut paraître anecdotique. Non, ils ont vraiment un nez qui est quasiment scientifique. Ils ont emmagasiné toute une somme de données qui nous ont permis d'orienter ensuite une recherche, cette fois-ci fondamentale, moléculaire, qui a confirmé leurs premières observations, en l'occurrence la présence en grande quantité de vanilline, c'est-à-dire un produit de dégradation, de putréfaction, qu'on n'aurait pas pu retrouver si les restes avaient été brûlés, incinérés, mais qui correspondait plutôt que c'était de la matière organique en cours de décomposition, putréfaction, comme on peut le voir pour des fragments de momies égyptiennes.
Et donc finalement, cette côte, c'est une côte de momie égyptienne ?
La côte de Jeanne d'Arc est bien une côte humaine, mais ce sont des fragments d'une momie égyptienne humaine du 7e siècle avant Jésus-Christ. Il y a même un petit os de chat d'une momie de chat égyptien à peu près à la même époque.
Oui, d'accord. Donc là, vous êtes amusé à imaginer ce qui avait pu se passer pour qu'on retrouvait cette...
Alors, on s'est pas amusé parce qu'on est des scientifiques.
Oui, on a le droit de s'amuser quand on fait de la science.
Quand on clôt le dossier et qu'on réfléchit, là, on s'amuse. Mais quand on travaille, on se l'interdit. Non, sérieusement, ce qui s'est passé, c'est assez intéressant. C'est qu'aux alentours de 1870, à peu près, il y a une Jeanne d'Arc est débattue. L'extrême gauche la veut, l'extrême droite la veut et l'Église la veut. On la redécouvre un tout petit peu depuis Voltaire. Et elle est vraiment en débat. Et le premier, si on peut dire, qui va apporter du palpable, va remporter la mise. Et en fait, un apothicaire, Tourlet, dit avoir découvert ça. En fait, il prend ça dans son échoppe d'apothicairie. Ouais. On utilise la mumia, les fragments de momie égyptienne, comme hémostatique pour arrêter les saignements. Et du coup, il va faire une fausse relique, la présenter. Et là, c'est l'Église qui va remporter la mise parce que c'est les premiers qui ont quelque chose à présenter, quelque chose de palpable. Ouais. Donc, je ne voudrais pas choquer une partie de l'opinion publique, mais la béatification de Jeanne d'Arc, au moins sur ce plan-là, est un petit peu fondée sur un faux historique.
Ouais. Alain vous demande, l'étude des restes de personnes ordinaires n'est-elle pas également intéressante pour la connaissance du passé ?
Eh bien, il a entièrement raison. Ouais. Celle dont on parle là, c'est une partie minoritaire d'ailleurs de mon activité, c'est vérifier si l'histoire dit vrai à partir d'un individu bien précis pour lequel on a des données biographiques. Mais je voudrais le rassurer, une grande partie de l'activité de notre équipe est surtout fondée sur des anonymes. Ce sont les anonymes principalement qui font la masse statistique de l'histoire avec un H minuscule. Et donc je travaille sur, là récemment je fouillais en banlieue parisienne pour la direction régionale des affaires culturelles, une fosse commune de à peu près une cinquantaine d'individus vraisemblablement du Moyen-Âge. Et puis on travaille aussi sur des anonymes. Nos travaux par exemple dans les catacombes de Paris ou d'autres endroits, on n'a aucun nom pour ces gens-là. Pourtant, ils nous renseignent énormément à la fois sur l'histoire, mais aussi sur l'histoire des maladies. Mmh. Comment une maladie apparaît, vit, c'est-à-dire interagit avec l'environnement et d'autres maladies, et finit par disparaître.
Dans un instant, on va s'intéresser à une de vos dernières grandes enquêtes. Alors là, c'est pas sur un anonyme, c'est sur le squelette ou en tout cas des dents qui ont appartenu à Adolf Hitler. Et puis vous répondrez aux questions des auditeurs de La Tête au Carré. We'll be right back.
l'été, j'aperçois le soleil. Les nuages filent et le ciel s'éclaircit. Tu es dans ma tête qui bourdonne les abeilles. J'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail. Les filles sont belles et les dieux sont ravis. Le métro sud tout devient purulent. Dans ses souliers, le passager abruti. À l'idoité qui s'exprime violemment. Il y a plus de mille, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie.
C'était les Négresses Vertes. Voilà l'été sur France Inter. La programmation musicale de l'émission est signée Thierry Dupin.
La tête au carré. Sur France Inter.
Cet immeuble en plein centre-ville, tous les Russes le craignent depuis des générations. C'est la tristement célèbre Loubianka. Philippe Charlier n'a jamais été aussi proche d'examiner les dents supposées d'Hitler. Il vient de recevoir la confirmation du ministère des Affaires étrangères russe qu'il peut les manipuler. Mais ce sera à l'intérieur de la Loubianka. Une invitation extrêmement rare.
C'est bien ça.
Comme Philippe Charlier, en 1945, les hommes de Staline comprennent l'intérêt d'authentifier ces prothèses. Et qui mieux que ceux qui soignaient les dents d'Hitler pour le faire? Käthe Oesermann était l'assistante du dentiste d'Hitler. Fritz Echtmann était son prothésiste. Les Russes les forcent à livrer le dossier dentaire du Führer et à les aider.
Sur la mâchoire supérieure qui m'est présentée, il y a une rayure nette sur une prothèse. Elle a été faite quand j'ai participé à l'opération de l'automne 1944 pour arracher à Hitler sa sixième dent. J'affirme que cette mâchoire a toutes les caractéristiques des bridges et des dents d'Hitler.
Extrait du documentaire Le mystère de la mort d'Hitler, diffusé en mars dernier sur France 2, avec notre invité Philippe Charlier, médecin légiste. Il a vu passer sur sa table d'autopsie les figures illustres de l'histoire, des figures illustres. Et la dernière grande enquête, c'est donc sur Adolf Hitler. Alors, il faut prendre le temps de raconter cette histoire. Comment vous êtes arrivé à avoir droit de regarder ces dents qui étaient en Russie, stockées précieusement apparemment?
Apparemment, je vous confirme. En fait, c'est pas simplement des dents, ce sont, il faut imaginer. Donc Hitler meurt à Berlin au moment vraiment de la fin de la guerre, la débandade côté européen, et les circonstances sont pas très très claires. On sait qu'il va essayer de se suicider, de se supprimer en prenant du cyanure, ça a pas marché immédiatement. Un coup de feu est peut-être tiré, on sait pas par où, par la bouche, par la tempe, et puis ensuite le corps est jeté avec celui d'Eva Braun dans un trou d'obus, arrosé, détruit, carbonisé en partie, recouvert et ensuite découvert quelques jours plus tard par les soviétiques lorsqu'ils récupèrent Berlin. La récupération du cadavre de Hitler se fait en deux temps successifs par deux équipes administratives différentes, deux services différents soviétiques. Ce qui explique que maintenant, une partie du corps, c'est-à-dire un fragment du crâne, est dans un service de sécurité. Tandis que les fragments de dents, c'est-à-dire maxillaires, mandibules, les dents et les prothèses dentaires, et tous les tissus mous qui sont encore adhérents, muscles, langues, etc., sont conservés dans un deuxième endroit, la Loubianka dont on vient de parler, c'est-à-dire le FSB descendant du KGB. Nous, on a eu l'autorisation d'y travailler et on a eu un accès direct à ces restes-là, peut-être parce que vous avez cité pas mal d'études qu'on a réalisées, Richard Coeur de Lion, Henri IV, etc. Donc du coup, on a pu faire la preuve d'un savoir-faire et d'un sérieux scientifique, j'espère. D'autre part, sur le plan géopolitique, Jean-Christophe Brizard et Lana Parchina avaient déjà bien préparé le travail. Ce sont des journalistes qui ont bien préparé et obtenu les autorisations nécessaires. Mais je pense qu'elles nous ont été d'autant plus données qu'on est neutre sur le plan géopolitique.
Ah oui.
Il était important que l'identification définitive de ces restes, je pense, ne soit pas réalisée par des Américains, pour des raisons d'amour chronique entre Russes et Américains, mais surtout que ça ne soit pas fait non plus uniquement par des Russes, parce que ça aurait pu être taxé de totalement subjectif.
Oui, sujet à caution.
Sujet à caution, de façon vraisemblablement injuste, mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc oui, on a eu l'autorisation, on y est allé deux fois de suite, une fois pour le crâne, une fois pour le tissu dentaire et apparenté, avec l'autorisation même d'apporter du matériel pour faire une étude sur place, loupe binoculaire en l'occurrence, et surtout, ce qui paraît incroyable, de faire des prélèvements de façon légale, ramener ces échantillons à Paris, et pouvoir ensuite faire des examens complémentaires, du microscope électronique à balayage, des dosages élémentaires, ce genre de choses.
Alors qu'est-ce que vous avez réussi à faire dire? Déjà les conclusions pour les deux fragments, que ce soit les dents et le crâne, ne sont pas les mêmes. Pour les dents, finalement, vous avez réussi à obtenir plus de choses.
Oui. Alors, les dents, on a la chance d'avoir le dossier médical et morphologique de Hitler au moment de son décès, un tout petit peu avant. On sait même toute la liste des médicaments qu'il prenait. Ça, c'est conservé dans les archives russes, dans les archives américaines, et puis dans des archives qui sont communes, qui sont dispersées, comme des radiographies, par exemple, qui ont été authentifiées. Donc, on sait exactement à quoi ressemblaient le crâne et la denture de Hitler au moment de son décès. D'autant plus qu'il a eu une tentative d'assassinat, vous savez, qui a échoué, malheureusement, et pour lequel il a eu des clichés radiographiques itératifs juste après, parce qu'il avait des douleurs dentaires et ophtalmiques. Donc, cette région-là est vraiment bien explorée sur le plan morphologique. Et donc, les dents, elles étaient déjà connues. Elles avaient déjà été prises en photo. Déjà, des articles avaient circulé disant « Les dents sont compatibles avec Adolf Hitler ». Le seul truc, c'est qu'on ne savait pas si c'était des dents authentique ou si ça n'avait pas été un faux réalisé par les soviétiques pour faire croire, à l'époque de Khrouchtchev notamment, faire croire qu'ils avaient une fausse relique. J'aime pas le mot relique. Une fausse dépouille, une fausse un trophée de guerre. Ouais. C'est vraiment pas une relique. Et donc du coup, notre examen principal a été donc de confirmer ces données morphologiques. Il a des prothèses qui sont tellement bizarres, tellement biscornues, tellement uniques que ce sont vraiment les prothèses dentaires de Adolf Hitler sans l'ombre d'un doute. Mais il fallait quand même vérifier si c'était pas des fausses. Et nous, on a montré que elles sont vraies. Elles ont une patine d'usure. Elles sont recouvertes de tartre dentaire, dont la composition a été vérifiée par nous sur les échantillons qu'on a rapportés en France. Le tartre dentaire est spécifique d'un régime alimentaire de type végétarien, ce qui correspond au dossier. On retrouve dans le tartre dentaire des éléments à type notamment de sel d'argile que prenait Adolf Hitler pour un reflux gastro-œsophagien et des brûlures d'estomac, l'équivalent du Mahalox actuellement. Enfin, tant pis pour la marque. Ce genre de choses. Sur la morphologie, sur le degré de carbonisation, des restes, des limites, les dents sont celles d'Adolf Hitler. Mmh. En plus, ce qui est intéressant, c'est pas Adolf Hitler tel qu'il aurait pu survivre dans les années 70, 80, théorie survivantiste qui ont le cours. Non, c'est Adolf Hitler en 1900, dans les années 44, 45, pas plus. Ouais. Pas plus.
Donc là, on a la preuve formelle qu'il s'est bien suicidé, qu'il est bien mort à ce moment-là.
On a la preuve formelle qu'il est bien mort. On a même des dépôts bleuâtres à la surface des prothèses dentaires qui peuvent correspondre à l'interaction entre le cyanure et le métal des prothèses. Ça, c'est pour les dents.
En revanche, pour le crâne, vous n'avez pas pu conclure. En 10 secondes sur le crâne, pour que je puisse encore vous poser quelques questions à l'auditeur.
Le crâne, c'est simple. C'est un pariétal gauche. On a un orifice de sortie d'un projectile à balle d'arme à feu. Pour nous, morphologiquement, il est complètement compatible avec Adolf Hitler, mais c'est pas assez pour être sûr et certain. Donc en gros, il faut qu'on y retourne, qu'on prélève l'ADN des dents dont on sait que c'est le bon, et qu'on compare avec l'ADN du crâne, et là on pourra enfin vous répondre.
Alors Paul vous demande, l'entomologie, c'est donc l'étude des insectes, n'est-elle pas, par la présence des insectes, nécessaire à vos études?
Oui, c'est nécessaire, c'est surtout très utile, Paul. L'entomologie nous permet non seulement de savoir la saison, le lieu d'enfouissement ou de décès d'un individu, mais surtout on peut faire de la toxicologie à partir des insectes. Ouais. Quand on n'a plus qu'un squelette et que la seule partie organique, eh bien, c'est ce qui a été mangé par les insectes et que les insectes ensuite sont morts juste à côté, eh bien, c'est dans les insectes qu'on peut retrouver des toxiques qu'on ne retrouverait pas dans les ossements du défunt. Donc les deux se font vraiment en parallèle. On ne peut plus se passer de l'entomologie, que ce soit en médecine légale ou que ce soit pour les cas historiques.
Alors vous intriguez un auditeur, Martin, qui demande, pouvez-vous demander à votre invité comment il perçoit la mort avec ce métier si particulier ?
C'est ma collègue. Voilà, c'est ma collègue.
Votre collègue de travail.
C'est ma collègue de travail.
Mais c'est terrifiant.
Ben non, c'est pas terrifiant, mais vous savez, ça sera bientôt votre voisine. Enfin, je dis bientôt, pas bientôt, mais un jour prochain. Non. C'est comme tout médecin, la mort est notre collègue de travail, mais on n'est pas forcément obligé d'aimer nos collègues.
Mmh. Oui. Dans ce cas-là, il est préférable. Est-ce qu'il y a un risque de se laisser influencer par le sujet sur lequel on travaille quand on travaille sur des figures aussi emblématiques, aussi connues?
Alors c'est un risque, mais c'est un risque qu'on élude de la façon suivante. La première, on travaille jamais seul. On est toujours, Hitler, on était 5 ou 6, je crois. Henri IV, on était une 20aine à peu près. On est multidisciplinaire. Donc chacun, on se calme, on se refroidit, etc. Et puis vraiment, autant on peut avoir une empathie réelle avec un patient vivant, autant avec un patient décédé, mais c'est toujours un patient, on a une froideur et un détachement. Donc après, une fois que le dossier est fini, que c'est envoyé à la revue et que la revue a accepté la publication, là on peut se réjouir en se disant « ouais, c'est sympa, on a quand même fait un bon boulot ». Mais avant, non.
Merci Philippe Charlier. Je signale qu'en octobre sortira chez Talendier, aux éditions Talendier, « Quand la science explore l'histoire ». À surveiller donc. Allez, on passe avec le docteur de la tête au carré.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Daniel.
Alors vous vous êtes intéressé à une nouveauté, le slip de Faraday qui protège les testicules électrosensibles.
Et oui Daniel, la marque Spartan commercialise un slip, ou plutôt un boxer, destiné à bloquer les ondes électromagnétiques qui menaceraient nos précieux spermatozoïdes. Le principe est celui de la cage de Faraday. Des fibres d'argent sont incorporées dans le tissu en coton, formant une enceinte métallique qui bloquerait 99% du rayonnement électromagnétique ambiant, ce que je crois volontiers.
Mais est-ce que c'est justifié ?
Bah, c'est ça c'est le gros problème, hein. Parce que j'ai vraiment rien lu de vraiment convaincant sur la baisse de fertilité humaine liée au téléphone ou au wifi. Et dans le doute, on peut toujours ranger son téléphone ailleurs qu'au contact de ses bijoux de famille. Et je reviens donc à ce boxer vendu 42€ par cette start-up qui avait levé 8 000 € en 2015 sur la plateforme Indiegogo.
Indiegogo?
Oui, en français, le nom est amusant, c'est sûr. En 2016, 20 000 € supplémentaires ont permis de fabriquer les premiers exemplaires du boxer anti-ondes. Et son succès a permis à la société Spartan de lever en 2018 1 000 000 €, notamment auprès de la Banque publique d'investissement, mais aussi auprès de particuliers pour la moitié de la somme. Et elle vient de s'installer dans le célèbre incubateur Station F. Tout cela est très sérieux, au moins sur le plan économique. Le boxer est présenté comme très confortable et, outre l'effet bloqueur des mauvaises ondes, les propriétés antiseptiques de l'argent sont mises en avant par les inventeurs. C'est un usage qui me paraît beaucoup plus réaliste, hein. L'argent est en effet un antibactérien très efficace et il existe depuis longtemps des chaussettes contenant des fibres d'argent pour ralentir la dégradation de la sueur par les bactéries, dégradation à l'origine de l'odeur gênante du jus de pied. Le boxer argentique pourrait donc théoriquement être porté plusieurs jours de suite sans trahir son propriétaire, d'autant qu'il est de couleur sombre.
Oh, Dominique Dupagne.
Alors, je précise que c'est moi qui fais cette déduction, et non le fabricant qui se contente de mettre en avant un effet anti-mauvaise odeur, sans plus de précision. En revanche, je vois un intérêt potentiel à ce caleçon antiseptique pour lutter contre les boutons rouges sur les fesses, dont certains hommes se plaignent parfois, notamment ceux qui travaillent assis toute la journée, à essayer sans garantie de résultat. Alors, pour revenir à la protection de la fertilité masculine, il faut quand même préciser qu'un facteur important de l'altération des spermatozoïdes, c'est la chaleur. C'est pour ça qu'ils descendent quand il fait chaud pour prendre l'air, alors qu'ils remontent quand il fait froid, sous l'effet de la contraction de la peau des bourses. Ils doivent rester en permanence entre 33 et 34 degrés. Or, les sous-vêtements ou les pantalons serrés gênent cette thermorégulation mécanique et sont probablement bien plus dommageables que les ondes émises par un téléphone. Donc, rien ne vaut un bon vieux caleçon et un pantalon à l'entrejambe généreux. Mais bon, chacun fait comme il veut et porter un slip argentique avec une Rolex en or dans une Tesla en aluminium, c'est peut-être le total design metal de l'homme moderne.
C'était les conseils de mode du docteur Dominique Dupagne. Merci à vous Dominique et à jeudi prochain.
Au revoir Daniel.
Et merci à Selim Guéribi et à Anne-Laure Cochet qui étaient à la technique aujourd'hui. Demain dans le Club de la Tête au Carré, des chefs-d'œuvre de la peinture vus par les sciences, des fantômes et la biodiversité parisienne.